les dossiers Construction 21. Aujourd'hui, le dossier Afrique, ville durable.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau dossier de Construction 21. Nous allons, dans le cadre des deux tables rondes d'aujourd'hui, évoquer le dossier Afrique Ville Durable qui va nous permettre d'analyser et de comprendre le potentiel des villes africaines pour façonner grâce à elles un futur urbain, durable et exclusif. Mais surtout, nous allons découvrir en compagnie de mes invités du jour comment ces villes répondent aux pressions intenses exercées par leur population et comment font-elles pour répondre aux enjeux climatiques et sanitaires sans précédent. Et pour la première table ronde où nous allons évoquer les enjeux et la gouvernance, nous allons accueillir les trois premiers invités. Nous avons en ligne avec nous Camille Wendrop-Boyon. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous allez
bien ? Oui, je vais très bien.
Merci. Oui, merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de mission France Ville Durable. Vous êtes aussi la co-rédactrice en chef de ce dossier qui est assez riche. Hein, et donc, vous allez nous rentrer avec nous, en tout cas dans les détails, nous expliquer un petit peu l'intitulé de ce dossier et qu'est-ce qu'il y a justement à l'intérieur. Nous avons également à vos côtés Christian Brodag qui est avec nous en ligne également. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, bonjour. Vous êtes président de Construction 21 et co-rédacteur en chef également du dossier. Vous allez rester avec nous pour nous expliquer justement le renforcement de la capacité de ces villes africaines au travers de l'article que vous avez écrit et nous donner une vue d'ensemble de cet article sur lequel vous avez travaillé. Ici sur notre plateau, nous avons Philippe Massé. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Vous êtes directeur adjoint Europe internationale pour ADEME. Vous allez dans quelques instants nous présenter ADEME, nous dire ce que c'est et surtout nous expliquer l'adaptation et les politiques publiques dans le bâtiment en Afrique. Et nous allons accueillir également sur notre plateau Eric Obspin. Bonjour Eric.
Bonjour.
Vous êtes le président de Phosphoris.
Oui.
Vous allez nous expliquer justement le projet CEPHAL et la nécessité de l'accompagnement des acteurs locaux pour la conception d'une micro-ville durable au Bénin. Nous avons également Sylvain Chapon. Bonjour Sylvain.
Bonjour à tous.
Vous êtes délégué marketing et stratégique pour Engie. Société Engie qu'on connaît. Vous allez nous présenter également votre article. Et à vos côtés, Karim Selouane. Bonjour Karim.
Bonjour.
J'ai bien prononcé votre nom de famille ? Il y a trop de monde dans ce studio. Karim Selouane, vous êtes CEO et fondateur de Résalliance, et non pas Résilience, hein, Résalliance. Vous allez nous expliquer en quoi consiste votre entreprise et vous allez surtout nous expliquer comment vous avez participé activement à ce dossier. Et nous allons tout de suite commencer par la première table ronde.
Les dossiers Construction 21.
Et pour évoquer les enjeux et le modèle de gouvernance qui concerne ce dossier, nous allons justement discuter avec vous, Camille Wendrop-Boyon, chargée de mission France Ville Durable. Alors Camille, déjà expliquez-nous en tant que co-rédacteur chef de ce dossier, pourquoi vous vous êtes intéressée aux villes africaines ?
Bonjour, bah merci déjà de cette invitation. Écoutez, donc moi je travaille pour France Ville Durable, donc j'ai peut-être vous dire quelques mots de France Ville Durable.
Bien sûr, bien sûr.
Ce qui vous permettra de comprendre un peu pourquoi, voilà. Déjà, on remercie vivement Construction 21 qui est un de nos partenaires et de nous avoir associés à la rédaction en chef de ce dossier qui est évidemment très important pour nous. France Ville Durable, c'est l'association française des parties prenantes professionnelles de la ville durable. Donc, ce qui fait vraiment notre particularité, c'est de réunir dans un même collectif des acteurs privés et des acteurs publics autour d'une vision partagée qui est basée sur trois piliers. La sobriété, la résilience et l'inclusivité qui sont vraiment les trois piliers constitutifs des travaux de l'association, donc des formations que nous proposons, que nous initions, des groupes de travail également et des prises de parole aussi diverses et variées. Donc voilà pour vous dire quelques mots. Et puis donc voilà, l'ensemble de ces acteurs sont organisés, sont quatre collèges, donc des collectivités territoriales, donc des grandes collectivités. On a Paris, Orléans, Grenoble, mais aussi des associations d'élus. On a un collège État, parce qu'on a un appui maintenant très renforcé des États qui participent à l'ensemble de nos travaux, avec le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Cohésion des territoires, mais aussi les grands opérateurs, hein, ADEME, qui est justement présent, je
tout
salue.
Tout à fait, qui vient nous expliquer son point de vue également.
Voilà, la Caisse des dépôts. Tout ce qui constitue aussi les entreprises, vous en avez deux de représentés aussi également, je crois, 20 Engie, qui font partie de nos acteurs. Très actif au sein de France Ville Durable, plus particulièrement les grands comptes, hein, les grandes entreprises qui participent évidemment à la construction de la ville durable, des réseaux, de l'énergie, des services. de la construction, bien évidemment. Et enfin, un collège qui constitue toute la matière grise, en fait, et qui passe évidemment la construction de la ville durable, que ce soit l'ordre des architectes, les agences d'urbanisme, les notaires, bien évidemment, les ingénieurs, etc. Donc voilà tout cet écosystème que nous réunissons dans un espace de dialogue ou un espace dans lequel ils peuvent échanger librement et co-construire ensemble des projets et mettre en avant des bonnes pratiques, diffuser des bonnes pratiques sur la ville durable, la ville et les territoires durables autour de ces trois piliers dont je vous parlais au début.
Alors, allez-y, je vous en prie.
Non, alors voilà pour les quelques mots sur France Ville Durable. Maintenant, est-ce que vous voulez que, donc sur le dossier...
Oui, vous avez participé, vous, activement, hein, puisque vous avez écrit un article là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous l'exposer?
Alors, j'ai participé à l'édito aux côtés de Christian Brodague pour présenter les enjeux de ce dossier, évidemment, puisqu'on sait que l'Afrique, mais aussi comme chaque continent est confronté, évidemment, à l'urgence climatique, mais aussi à une croissance urbaine, bien sûr, inédite. Donc ces deux contraintes font vraiment peser des enjeux exceptionnels sur tous les territoires du continent africain et rendent indispensable vraiment de s'engager au plus vite et de manière prioritaire à la fois vers l'adaptation au changement climatique et vers le développement durable. Et donc c'est vraiment une logique d'intérêt général. Donc c'est vraiment, évidemment, sans vouloir donner de leçons, il n'est pas question de donner des leçons, mais avec toute humilité que France Ville Durable et Construction 21 ont voulu proposer dans ce dossier de participer à deux objectifs, il me semble, un double objectif, de rappeler à la fois les enjeux particuliers de la ville durable en Afrique, donc tout ce qui relève de la gouvernance, de la planification, de l'énergie, de la construction, de tout ce qui est formation, etc., mais aussi évidemment de mettre en avant les atouts et les contraintes spécifiques de ces territoires, et de mettre en avant aussi des solutions éprouvées grâce à des exemples concrets, projets et d'expériences. Et je crois que ce dossier illustre vraiment de façon très, très riche un ensemble de solutions et de savoir-faire français, mais aussi africain, bien entendu, puisqu'il s'agit aussi d'avoir un échange, finalement, de pratiques et d'usages et d'usage durable.
Alors, vous allez rester avec nous, si vous le voulez bien, Camille. On va rentrer un petit peu plus dans les détails de votre article. Mais je voudrais bien donner la parole à Christian Brodat, qui est avec nous. Christian, vous êtes président donc, de Construction 21 et co-rédacteur également en chef du dossier. Ce dossier a été riche en enseignements, je suppose, puisque vous avez, vous aussi, participé à la réflexion commune sur le renforcement de la capacité de ces villes. Il y a plein de choses à dire là-dessus. On est bien d'accord?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est le renforcement de capacité, hein? Le renforcement de capacité, c'est, alors de façon générale, on peut le définir comme le processus par lequel les individus, les organisations et la collectivité, dans son ensemble, libèrent, adaptent, renforcent et préservent au fil des ans leur capacité à gérer leurs affaires avec succès. Donc ça, c'est la définition générale. En fait, c'est un concept qui est souvent appliqué au niveau des pays et que j'ai essayé de développer ici dans le cadre des villes, parce que les villes ont besoin d'avoir la capacité à développer leurs projets, à avoir une stratégie au niveau du territoire pour combiner les approches de l'énergie, des déchets, de la mobilité. Des capacités aussi des acteurs à monter des projets, à innover, à produire des solutions, et puis ensuite toutes les capacités techniques. Donc tout ceci, ça nécessite une connaissance, une intelligence collective au niveau des villes, à différents niveaux et pour tous les acteurs. Et en fait, c'est une situation qui est nécessaire aussi pour les pays, en France. Les villes ont besoin de se renforcer pour être capable effectivement d'intégrer toutes ces questions de transition écologique et d'intégrer finalement le développement durable de leur ville, mais c'est évidemment aussi très important pour les villes africaines. Et dans les chiffres, je vous rappelle que on attend 1 milliard d'habitants de plus en ville en Afrique d'ici 2050.
Donc il va falloir s'organiser,
parce que à plein de niveaux, à la fois pour qu'effectivement cet urbanisme soit au service des populations, mais aussi en termes de changement climatique et d'impact sur la planète, qu'on soit vraiment dans les trajectoires, puisqu'on parle aujourd'hui de trajectoire zéro carbone pour 2050. Donc vous voyez la difficulté. Donc ce qu'on dit, et ce que c'est un peu la thèse, c'est que c'est en renforçant cette capacité, la connaissance, les informations, que l'on arrivera à adopter les bonnes solutions, à entraîner l'ensemble des villes dans le bon sens. Donc c'est vraiment pour Construction 21, parce que je vais présenter Construction 21, qui est donc une plateforme justement orientée vers le qui est aussi à destination des professionnels et des acteurs de la construction et de la ville. Donc on est aussi un peu sur le même public que France Ville Durable, sauf que nous sommes une plateforme d'information et que nous sommes internationales, présents dans en Europe, en Chine, un peu en Afrique du Nord. Et donc là, vraiment, c'est un enjeu très important. Et cette affaire d'accès à l'information, aux connaissances et aux compétences. Et donc, d'ailleurs, nous défendons l'idée que, au-delà des financements, puisque tout ceci nécessite beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, enfin, évidemment, tout le monde le comprend, mais qui est l'équivalent de 1 pour 1000. Seulement 1 pour 1000 de ce qui est mis en investissement et en financement aille vers cette intelligence collective, vers le maintien de systèmes de connaissances et d'informations, parce que on ne voit pas assez ce rôle-là.
Voilà. Christian Bourdag, question importante, avec quel type d'acteurs locaux vous avez travaillé pour justement mener ces différentes réflexions ?
Alors, nous, comment fonctionne Construction 21 ? On est présent dans les différents pays. Avec des chapters nationaux, donc des organisations nationales qui réunissent l'ensemble des acteurs. Donc au niveau français, on a une association qui a l'ensemble des acteurs, principalement de la construction, mais aussi de la ville. Et puis le partenariat avec France Ville Durable, évidemment, nous renforce aussi sur l'ensemble des acteurs. Et donc on a donc une sorte de gouvernance qui permet à ces acteurs d'orienter, de décider, de, et par exemple les dossiers que nous sortons régulièrement, tous les mois nous sortons des dossiers différents, le dossier Afrique en est un, se fait avec les professionnels eux-mêmes, avec les acteurs membres de Construction 21, pour, je dirais, vraiment être collé au terrain, collé aux problématiques qui se posent aujourd'hui au niveau des professionnels. Donc il y a une gouvernance nationale et ensuite il y a un certain nombre de projets, notamment un projet très important qui est celui des awards, des prix, c'est-à-dire qu'on identifie les réalisations, les prix, les projets, on les donne à voir dans des bases de données et on organise des awards pour vraiment faire sortir les meilleures pratiques au niveau national et international.
Alors Christian, vous allez rester avec nous, mais je voudrais donner la parole, si vous voulez bien, à Philippe Massé, qui est avec nous dans le studio, directeur adjoint Europe Internationale pour ADEME. Alors Philippe, d'abord, présentation d'ADEME pour qu'on sache exactement quelles sont vos actions.
Alors l'ADEME, c'est l'Agence nationale de mise en œuvre de la transition écologique en France, sous la tutelle des deux ministères que sont le ministère de la transition écologique et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. On est effectivement l'un des grands opérateurs de l'État qui participe à cette transition écologique au niveau français avec l'ensemble des acteurs. Ça, c'est 99% de notre activité. Et puis, il y a un petit pourcent qui va vers de l'activité européenne et internationale avec une stratégie que l'on a adoptée d'ailleurs, une nouvelle stratégie qu'on a adoptée au Conseil d'administration de juin dernier. Nous fait intervenir sur les mêmes champs d'intervention finalement nationaux, mais vers des zones internationales cibles que sont notamment la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne.
Philippe, vous êtes intervenu aussi activement dans le cadre de ce dossier au travers d'un article où vous nous avez expliqué comment justement l'ADEME s'est adaptée aux politiques publiques dans le bâtiment en Afrique. Alors comment a été menée justement cette réflexion ?
Alors, cette réflexion a été menée de longue date avec nos partenaires africains. En tant qu'agence nationale, on crée des partenariats avec des homologues africains pour essayer de, comme le disait Christian à l'instant, essayer de les faire monter en capacité, en compétence, en apportant une expertise. Alors, quand je dis bien apporter une expertise et non pas plaquer une expertise, apporter, ça veut dire essayer de co-construire avec eux dans un contexte qui est différent du nôtre, avec des impératifs qui ne sont pas du tout les nôtres, avec un pas de temps qui n'est pas le nôtre.
Et une façon de travailler aussi
qui est différente, des schémas décisionnels différents, et qui permet donc d'avoir une montée en compétence sur des différents sujets qui sont nos champs de compétences au niveau français, au niveau de l'ADEME. Et en l'occurrence, sur deux champs particuliers qu'on a mis en exergue, l'adaptation et la construction. Alors, Comment on fait ? En fait, on essaye de bâtir des programmes d'intervention, de renforcement de capacité qui sont co-construits avec les acteurs locaux.
Oui.
Quand je dis acteurs locaux, ça peut être des acteurs nationaux des pays concernés et des collectivités locales, voire des ONG africaines, pour essayer de définir un programme adapté sur une thématique particulière. Et en fonction de cela, on essaye de voir comment on peut intervenir, soit sous la forme de workshops ou d'ateliers particuliers, soit sous la forme de sessions de formation style MOOC, ou alors des actions beaucoup plus en profondeur, d'expertise, sur des sujets en profondeur et qui permettent de structurer, par exemple, une planification locale ou régionale, ou de transférer des méthodologies d'outils leur permettant d'avoir accès à de la donnée, de capitaliser de la donnée, de la manipuler, etc., oui. etc., et de sortir des bilans.
En exemple concret, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? C'est-à-dire comment, si vous pouvez nous donner des exemples concrets pour qu'on comprenne la mise en route de ce type de projet ?
Alors, l'exemple concret, par exemple, sur l'adaptation, sur le climat dans son ensemble.
Oui.
On est intervenu dans le cadre de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, qui est une réplique de la Convention des maires européenne, et qui permet de responsabiliser les grandes métropoles africaines sur une planification de leur territoire en matière d'énergie, de climat, d'accès à l'énergie, c'est important, et d'infrastructures. On est intervenu sur 13 villes africaines de plus de 500 000 habitants, donc des grosses conurbations. Et on a monté en compétence des équipes locales, donc on leur a transféré de l'expérience, des outils, de la compétence, pour qu'eux-mêmes s'approprient le sujet avec leurs propres mots, leurs propres méthodologies, leurs propres méthodes de travail.
Et les laisser totalement autonomes
Outils, alors tout ça nécessite de l'argent, comme le disait Christian tout à l'heure, c'est de l'argent européen qui était insufflé là-dedans. Nous, on a été intervenus en tant qu'expertise. Et puis, ces 13 villes ont pondu chacune un plan d'action climat territorial pour leur ville.
Et est-ce que les instances gouvernementales de ces pays ont participé aussi à ce type de mise en place ?
Alors, les instances gouvernementales de ces pays étaient informées de ce qui se faisait.
Mais est-ce qu'ils ont mis un peu d'argent ?
Ils n'ont pas mis d'argent et ils n'ont pas participé activement. Par contre, ceux qui ont participé activement, ce sont les équipes des municipales, les citoyens. Et ça, c'est important parce qu'on pensait que, effectivement, avoir ce type de sujet pour une population qui n'a pas forcément ses besoins en tête au niveau du climat, eh bien non, on a une réponse extrêmement favorable et les citoyens ont largement participé à cet exercice.
Camille Wendrop Boyon, quelle réflexion vous faites par rapport à ce qui a été dit justement de la part de Philippe Masset ?
Bah, écoutez, évidemment, c'est un des outils, la Convention des maires en Afrique subsaharienne, effectivement, c'est un des outils extrêmement importants pour promouvoir et pour développer des gouvernances, puisque la gouvernance, on sait, est un problème majeur, mais que ce soit en Afrique ou partout ailleurs. Mais évidemment que les problèmes de gouvernance en Afrique nécessitent peut-être, et c'est peut-être aussi là où la France peut apporter son savoir-faire en termes de formation, d'outils, de porter à la connaissance en fait des instances, des outils pour se structurer, pour s'organiser, puisque c'est l'élément majeur, et se structurer dans une perspective transversale et systémique, puisque c'est bien ça dont il s'agit aussi. Pour développer des projets de villes et de territoires durables.
Christian Brodag ?
Oui, alors je pense que l'action de la France à différents niveaux, que ce soit celle des entreprises ou celle des institutions, vise à une appropriation en fait par les pays et pas du tout une approche de l'extérieur qui dirait ce qu'il faut faire. On voit dans les entreprises, la propriété des entreprises françaises, et on peut comparer ça peut-être à la Chine, aux entreprises chinoises, c'est quand même d'être présent et de former des cas d'utilisation d'avoir des cadres des pays, donc de renforcer cette capacité des pays eux-mêmes à être présents dans les entreprises. Et c'est vrai dans les formations, c'est vrai, Philippe Massé en a parlé, dans la façon d'aborder ces questions-là. Donc c'est vraiment pas du tout un rôle d'autorité ou de pouvoir, mais au contraire, permettre effectivement à l'Afrique de s'approprier toutes ces questions et de pouvoir les envisager.
Oui, parce qu'on a compris que l'idée dès le départ, c'était pas d'imposer, hein, c'était de les aider à se développer
Tout à fait. Donc, voilà. Et puis, dans une certaine humilité, sachant qu'effectivement, ils connaissent leur pays, ils ont leurs problématiques que nous, on ne connaît pas, on ne vit pas de la même façon. Mais c'est cette coopération qui est intéressante. Et je pense que dans le domaine, justement, de l'information, et c'était ça l'objectif aussi de Construction 21, c'est d'ouvrir un peu le dialogue. Dans le domaine de l'information, c'est vraiment un moyen aussi d'échanger à égalité, si j'ose dire, entre les auteurs du Nord et du Sud et de pouvoir coopérer. Et donc, c'est vraiment l'enjeu aussi pour nous, pour Construction 21, de notre déploiement en Afrique base-là, avec les partenariats.
En tout cas, c'est un sujet riche et vaste. On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, on n'a que 15 minutes. Mais je crois que vous vouliez intervenir, Karim, rapidement, sur ce qui a été dit.
Oui, allez-y. Juste rapidement, c'est de ne pas omettre également que dans les capacités locales, il y a aussi le rôle très fort de la diaspora africaine. Oui. Diaspora africaine inter-africaine, c'est-à-dire que la diaspora est aussi au sein du continent africain, parce que il y a aussi une migration des compétences au sein du continent, et également une diaspora à l'extérieur du continent qui aussi ruisselle dans les organisations, dans les entreprises, qu'elles soient françaises, européennes ou autres. Et donc ça, c'est une capacité forte qu'il ne faut pas négliger.
Bien sûr.
Très souvent, des projets et des renforcements de capacités se louent, se consolident à travers cette diaspora.
Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés, en tout cas, sur ces premières questions d'enjeux et de gouvernance. Camille Wenrop-Boyon, merci d'avoir été avec nous, chargée de mission France Ville Durable.
Merci beaucoup.
Merci, vous pouvez rester si vous le souhaitez avec nous, puisqu'il y a une deuxième table ronde dans laquelle on va aborder les solutions. Cette fois-ci, Christian Brodac, président de Construction 21 et co-rédacteur en chef du dossier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous également.
Je vous remercie aussi, et donc je suis aussi heureux de cette coopération avec vous sur les autres dossiers.
Avec grand plaisir, effectivement.
À des dossiers qui ne portent pas que sur l'Afrique.
Exactement. Philippe Massé, vous restez avec nous si vous le souhaitez, directeur adjoint Europe Internationale pour ADEME. Merci encore. On passe tout de suite à la deuxième table ronde où nous allons aborder les solutions.
Les dossiers Construction 21.
Et dans le cadre du dossier Afrique, eh bien, nous allons tout de suite aborder, dans le cadre d'une deuxième table ronde, les solutions liées à ce dossier. Et mes invités pour cette seconde, justement, discussion et échange sont Eric Obspin. On va y arriver. Obspin, c'est ça,
Parfait.
président de Phosphoris, Sylvain Chapon, délégué marketing et stratégique pour Engie, et Karim Selouane, CEO et fondateur de Resalliance. Alors, on va commencer peut-être avec vous, Eric, si vous le voulez bien. Un mot sur Phosphoris.
Alors effectivement, je suis le président de la société Phosphoris, qui est une société d'ingénierie et d'architecture, qui est un acteur de la ville durable en France et à l'international.
Très bien.
On a trois expertises fortes, l'énergie, la qualité de l'air et l'architecture bioclimatique. Et tout ça, c'est dopé par un département recherche et développement qui est intégré. Qui a étudié à peu près une dizaine de projets ces cinq dernières années et qui nous fait aller plus loin en fait que les réglementations.
Quelle a été votre réflexion et votre contribution à ce dossier, Eric ?
Alors, moi déjà, l'Afrique, c'est un continent qui me tient à cœur, donc c'est une implication personnelle. On a imaginé avec les élus et notamment le président Talon un démonstrateur. Donc l'idée, c'était d'installer dans la ville où il est né, à Alada, donc au Bénin, un centre de formation pour les élus. On parlait tout à l'heure de centre de connaissances, le centre de connaissances physique, effectivement, ça peut être le centre de formation des élus, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, les élus retournent dans leur ville.
Dans les villes, effectivement, pour transmettre leur savoir ou leur façon de faire.
C'est ça. Oui. Et donc, c'est bien qu'ils puissent venir travailler ou s'améliorer pendant quelques jours ou quelques semaines dans un lieu qui est organisé autour de ce que pourrait être pour eux la ville durable.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez appris d'eux ? Parce que c'est ça qui est intéressant.
Alors, on a appris beaucoup de choses. D'abord, il a fallu comprendre le climat. Enfin, la première des choses, c'est oui. toujours la même méthode, hein, mais il ne faut pas qu'on pense qu'on est dans un climat comme le nôtre. Hein. Donc, il a fallu utiliser des matériaux locaux. Il a fallu imaginer, quand on s'est rendu compte qu'il y avait toutes sortes de faunes, d'installer les bâtiments sur pilotis. Donc, nous, au départ, on avait pensé faire comme souvent, mettre les bâtiments au sol, mais en fait, finalement, on les a mis sur pilotis.
Oui.
Et puis, on a voulu aussi montrer à la population comment on pouvait faire une agriculture assez simple. Et donc, sur le site, il y a tout un parcours de permaculture et qui permet de voir du début jusqu'à la fin d'un cycle comment ça fonctionne. Après, sur la construction en elle-même, on s'est vraiment inspiré de ce qu'on pense qu'il faut faire, c'est-à-dire l'utilisation des vents pour rafraîchir notamment, hein,
oui.
Se protéger du soleil avant de dire on va utiliser le soleil comme source d'énergie, c'est plutôt s'en protéger.
Oui.
La gestion de l'eau, parce qu'il pleut au Bénin, il pleut beaucoup, mais rarement. Donc il faut pouvoir capter l'eau et la stocker quand on en aura besoin. Et puis effectivement, après, production d'énergie autonome, hein, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de... Donc quand on fait quelque chose, il faut prévoir l'énergie, entre guillemets, embarquée. Donc c'est ça l'idée du démonstrateur qu'on a voulu mettre en place, qui a tout de suite bien pris. Donc on a apporté du financement, on a fait des conventions avec l'ENA, donc aujourd'hui on est proche de démarrer les travaux, mais comme souvent on n'a pas encore démarré.
Alors ça va comprendre combien de surface ce projet ?
La parcelle elle est de 300 mètres de long sur 160 mètres de large, et la partie D'accord. construite c'est à peu près 5000 mètres carrés, ça comprend des lieux d'études pour donc les élus, des réfectoires, des amphithéâtres, une partie administration, des bibliothèques ouvertes sur l'extérieur.
C'est un gros chantier.
Pas des bibliothèques uniquement tournées vers l'intérieur. Et puis des logements, parce qu'il faut pouvoir loger les élus lorsqu'ils viennent.
Et l'accès à cette micro-ville, est-ce qu'elle va être simple ou elle est vraiment excentrée
non.
en fait
non, elle touche la ville existante de Halada.
Très bien.
Ce qui veut dire que dans quelques mois ou dans quelques années, elle fera partie complètement intégrante de la ville.
Donc l'idée, ce n'est pas de l'isoler hein, et que ce ne soit pas quelque chose d'inaccessible. Alors on va peut-être aussi régulièrement revenir hein, sur ce dossier sur lequel vous avez travaillé. Sylvain Chapon, délégué marketing et stratégique pour Engie. Avant de rentrer dans justement les détails du 360 CityScan, un mot sur Engie, même si on connaît très bien l'entreprise.
Engie, vous le savez, c'est un grand acteur mondial de l'énergie et des services, avec une raison d'être principale qui est d'agir en direction et en faveur de la sobriété énergétique, de la neutralité carbone,
oui.
et puis bien sûr de trouver toute solution qui a un impact positif, bien sûr, pour les populations, la planète, et qui s'apprécie dans sa globalité et dans le temps. C'est important, effectivement, de... cela est dit autour de cette table, de s'inscrire aussi dans la durée et en matière d'enjeux planétaires, d'enjeux énergétiques. Voilà, Engie, c'est notre raison d'être.
Alors, quelle a été la méthodologie autour du 360 degrés CityScan ?
Alors, c'est d'abord, comme vous le dites, une méthodologie. Chez nous, c'est Tractebel, qui est une des entités d'Engie qui s'est spécialisée sur ce sujet. Et les experts de Tractebel ont souhaité, avec la méthodologie 360 degrés CityScan, de manière assez inédite d'ailleurs, de mettre en place quelque chose qui aille évidemment vers une ville plus résiliente, plus attractive. J'y reviendrai tout à l'heure dans le détail, mais surtout par un modèle au-delà de la co-construction, d'une participation directe des personnes localement, des compétences locales, une adaptation locale, et surtout, je reprends ce mot local à dessein, de prendre tout ce qu'il y a d'exploitable positivement, avec bien sûr cette volonté d'avoir la meilleure image, le diagnostic le plus fidèle aujourd'hui, mais pour les années à venir.
Mais qu'est-ce qu'elle donne comme information plus précise, justement pour faire face à ces enjeux ? Qu'est-ce qu'elle donne comme information de plus ?
Eh bien, La première information, c'est que quand vous prenez une photo et que vous faites un diagnostic, vous prenez une position. Cette position, elle est délibérément participative dans un dialogue.
Oui.
Et à partir de là, l'angle qui a été pris, c'est de faire une ville plus durable, avec tous les critères de durabilité, mais ils varient selon les opérateurs, ils varient selon les pays, ils varient selon, bien sûr, les interlocuteurs auxquels vous avez affaire, et c'est parfaitement légitime. Mais tous les critères de durabilité et de résilience, puisque c'est notre sujet, eh bien, rentrent dans ce dialogue-là. Vous comprenez, c'est-à-dire que la façon, le focus qui est mis en place, les analyses qui sont techniques, ça va être des analyses d'émissions de CO2, ça va être des logiques de planification urbaine.
Oui.
C'est par exemple, quand on prend en compte la mobilité, qui est un sujet planétaire, mais également africain, eh bien, c'est... quid de la mobilité dans son environnement, dans la rue, par rapport aux usagers, piétons, non-piétons et dans toute sa périphérie.
Cette méthodologie a été déjà déployée dans plus de 40 villes dans le monde, je crois, c'est ça ?
Elle est déployée dans beaucoup de villes. On est présent à l'international, mais la particularité, et c'est notre sujet aujourd'hui, c'est Abidjan, c'est une très grande ville qui a un rayonnement international. Qui apporte beaucoup en termes d'expertise. Et puis, elle est au bord d'un océan. Elle est soumise, bien évidemment, à des particularités climatiques, avec des enjeux, des défis démographiques, avec des enjeux technologiques. Donc, Abidjan est vraiment exemplaire pour les gens de Tractebel. Dans ce dispositif, on est bien sûr à la fois sur une méthodologie diagnostique.
Oui.
On est bien sur des apports continuels à travers les prismes que je vous ai donnés, qui sont extrêmement techniques. Ce sont des ingénieurs qui travaillent, ce sont des urbanistes qui travaillent, et tout en prenant en compte, bien sûr, tous les aspects d'inclusivité qui font partie de la résilience et les enjeux spécifiques à ce type de situation liés au changement climatique.
Et ça permet surtout une vraie cartographie des performances de la ville à laquelle on
s'intéresse. Exactement. C'est tout ce qu'il y a de positif dans la ville et qui doivent être valorisés, mis en œuvre et surtout pérennisé et optimisé pour l'avenir.
Alors, Karim Selouane, vous allez certainement compléter ce que nous a dit Sylvain à l'instant. Vous êtes CEO et fondateur de Résalliance. Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails avec vous, c'est quoi Résalliance ? Comment vous l'avez créé et pourquoi ?
Donc, Résalliance est un bureau d'études et d'ingénierie du groupe Vinci.
Oui.
Qui est dédié à l'adaptation des territoires, des villes, des infrastructures, des projets et de leur usage au changement climatique.
Ça fait beaucoup,
mais tout ceci est un tout, parce qu'on ne peut pas concevoir une infrastructure sans réfléchir aux usages, des usages qui peuvent changer. La temporalité des usages est des fois plus rapide que la capacité à une infrastructure à pouvoir se modifier. Quand vous construisez un barrage, il est là pour 100 ans. Un usage, il y a des effets de mode, il y a des tendances qui peuvent être beaucoup plus courtes. Donc il y a ces temporalités à gérer, et c'est en ce sens qu'on a créé cette initiative, au début, qui est partie d'une initiative, et de voir finalement comment repenser l'ensemble des cycles de vie des projets. Et du coup, c'est ce qui nous ramènera peut-être à l'article tout à l'heure, qui est celui de la finance. Parce que comment repenser des modèles économiques dans des temporalités, en sachant que généralement, quand on plaque un modèle économique d'un financement, on considère que les hypothèses de ce modèle sont figées sur une durée de X. Or, mathématiquement, on voit bien que si on parle de dérèglement climatique et ou de changement climatique, ce que l'on voit, c'est que le modèle d'aujourd'hui, les hypothèses d'aujourd'hui peuvent changer. Donc du coup, quid du modèle économique associé ? Parce que si on fait une infrastructure ou un bâtiment non adapté d'ici quelques années, il y a un surcoût en termes de maintenance ou de construction. Donc voilà pourquoi est-ce que Résalliance a été créé. Et puis très rapidement, pour dire aussi où est-ce que l'on travaille,
bien sûr.
On accompagne des acteurs tels que des bailleurs de fonds, donc la Banque mondiale, les programmes des Nations unies pour l'environnement ou le développement, UN Habitat également, donc qui est dédié à la ville. On accompagne des promoteurs immobiliers ou des aménageurs publics privés, des sites industriels ou des opérateurs de réseau. Donc on est sur plusieurs pays tels que l'Inde, les Caraïbes, l'Australie, Tahiti. Et en Afrique, on est déjà sur des projets qui englobent à la fois des renforcements de capacités, comme il a dit, mais également dans des montages de projets sur lesquels on va essayer d'accompagner nos partenaires locaux et nos clients sur du montage financier. Donc il y a une forme d'ingénierie de projet et d'ingénierie financière qui va avec.
À quelle ville vous vous êtes plus particulièrement intéressé ?
Alors là, pour le moment, on est sur un projet. Alors il y a quelques villes pilotes au Maroc, donc une qui s'appelle Lahyoune, située dans
les
le
yeux.
Grand. Exactement.
Ça veut dire voilà, les îles en arabe, en français. Oui.
Exactement, qui est située dans le Grand Sine marocain et une autre qui est à Saint-Louis du Sénégal. Donc, ils vont être deux villes pilotes, mais sur deux modèles différents. Celle de l'Erioun va être une forme d'éco-cité à l'africaine, qui va être dédiée à voir comment est-ce que l'ensemble des acteurs africains dédiés à la ville, des architectes, des urbanistes, des économistes, peuvent repenser la ville africaine dans un espace où les échanges inter-africains se feront. Donc, ça a été lancé par une fondation qui s'appelle la Fondation Fos Boukhra, qui est un think tank lié à l'OCP, donc l'Office chérifien du phosphate. D'accord. Et l'autre projet qui est financé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui lui est à Saint-Louis du Sénégal. Donc, c'est comment modéliser un process technique et comment le traduire dans un modèle économique d'investissement.
Et face au changement climatique, quelles ont été les réflexions là-dessus?
Alors, celle du Saint-Louis du Sénégal, l'enjeu, c'est le risque majeur, c'est la submersion marine et près de la moitié de la ville de Saint-Louis va disparaître. Donc ça, c'est clair, il y en a besoin de réfléchir. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on repense cette ville? Il y a des populations...
Pour la sauver.
Pour surtout, la sauver, et surtout bien des sûr. Populations qui sont liées à la pêche. Si demain, on leur dit, vous ne travaillez plus pour faire la pêche parce que le front marin ne sera plus accessible, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, on travaille dessus. Et l'autre projet, c'est sur celui de l'Erioun. Et là, c'est plutôt d'essayer de réfléchir collectivement à l'échelle africaine.
Globalement. De façon globale. Ouais. Sylvain, vous voulez intervenir?
Je souhaitais, vous avez, on s'est interrogé tout à l'heure sur le type d'approche qu'on pouvait avoir pour la résilience territoriale.
Oui.
Mais de fait, on n'aurait sans doute pas pu avoir forcément ce débat il y a encore 10 ans. On voit bien qu'on est dans une logique multidisciplinaire.
Tout à fait.
Très forte.
Et en faisant appel à différents acteurs.
Absolument. Mmh. Et ça c'est relativement novateur. Et précisément, le CityScan se présente comme une méthodologie multidisciplinaire. Mm. Et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'on parle à la fois d'attractivité, de productivité de la ville. La ville, c'est un écosystème économique, en particulier avec l'enjeu de la jeunesse, d'inclusivité, c'est-à-dire limiter tout ce qui peut créer des chaos ou créer des disruptions humaines. Mm. Et puis, bien sûr, la connectivité, qui est un enjeu majeur avec un continent connecté comme doit l'être l'Afrique. Mm. Et puis, toute cette capacité de réaction, de résilience. J'insiste là-dessus parce que, globalement, on est bien sur les 4 temps globaux. On identifie les risques avec tous les enjeux de formation aussi derrière qui ont été évoqués. On les anticipe. Après, on essaye de gérer au mieux les chocs, quels qu'ils soient, récurrents, globaux, brutaux. Et puis, de les réduire, de gérer cette crise. Et enfin, d'essayer, dans le meilleur des cas, et c'est souvent le cas, de construire mieux. Et là aussi, dans une logique comme CityScan, c'est de prendre en compte tout ce qu'il y a de positif. C'est le cas pour l'habitat, par exemple, très souvent, et toutes les techniques et toute cette adaptabilité qui doit être valorisée pour l'avenir et aujourd'hui.
Alors, on arrive aux dernières minutes de la conclusion de cette seconde table ronde. Vous avez quelque chose à rajouter, Karim ? Je vous voyais...
Oui, je voulais juste insister sur notamment dans le cadre de l'article... Qui fait partie de ce dossier Ville durable. L'enjeu premier, en fait, sans forcément parler de solutions techniques ou autres, l'enjeu, c'est comment est-ce que les villes africaines peuvent avoir un accès ou connaître les modalités d'accès au financement. Autrement dit, il existe toute une pléthore de moyens financiers par différents bailleurs. Et très souvent, il y a un décalage entre l'échelle nationale qui va finalement s'accaparer ou alors sur lesquels les financements vont être fléchés, et des réalités très locales de villes, parce que les villes africaines sont très hétérogènes. Quand on parle de villes africaines, c'est au pluriel, faisons très attention. Il n'y a pas de modèle unique entre les villes d'Afrique du Nord, les villes d'Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest, celles qui ont un héritage colonial, non colonial.
Les approches sont vraiment différentes.
Sont très différentes. Et donc, on ne peut pas plaquer un modèle de ville durable africaine, ce n'est pas possible. Et donc, il faut aller au plus près de ceux qui décident la ville, donc les acteurs locaux. Et très souvent, dans une grande partie de ces villes, une grande partie des villes africaines sont aussi dans le secteur informel. Donc là, l'un des enjeux du financement, parce que c'était l'objet de l'article, l'un des enjeux, c'est comment, d'un côté, sanctuariser ce qui est de l'ordre du financement officiel, institutionnel, et de l'autre, comment faire en sorte que tout le secteur informel puisse bénéficier de ce financement. Sans ça, je pense qu'on ne répondra pas au défi du développement durable des villes africaines.
Bon, en tout cas, le sujet est tellement vaste qu'on pourrait vraiment passer des heures à en parler. L'Afrique est un continent vaste dans lequel on peut aussi développer énormément de choses grâce à des gens comme vous aussi, et c'est important de le dire. Merci beaucoup en tout cas, Eric Obspin, merci d'avoir été avec nous.
Merci
président de Phosphoris, Sylvain Chapon, délégué marketing et stratégique pour Engie, et Karim Selouane, CEO et fondateur de Résalliance. Merci de de nous avoir suivis. Sachez que ce dossier a été publié cet été, porté par France Ville Durable et Construction 21, et qui dresse un panorama justement de projets, de solutions et de formations précurseurs des villes africaines, et consultable dès maintenant sur le site de Construction 21, autant sur les dossiers de la première table ronde que les dossiers qui concernent la deuxième table ronde. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de dossier des Constructions 21.
Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.